Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est une grande joie de vous retrouver pour cette avant-dernière édition de Qui veut gagner la flûte à bec. Chaque semaine, des questions de Zikmu, une flûte à gagner pour un de mes invités. Bienvenue donc à tous dans cette émission qui, eh bien je l'ai appris en revenant de vacances, crée la polémique, puisqu'on a reçu le courrier, je vais vous faire la petite partie courrier des lecteurs, on a reçu une lettre de l'association des amateurs de flûte à bec qui s'appelle l'ERTA. Bon, c'est en fait un acronyme anglais. Alors, je vous lis un petit extrait de la lettre qui parle de cette émission. Affublé d'un générique sonore particulièrement brocardeur et ponctué de jingles ridiculisant cet instrument, ce qui, au passage, n'est pas très sympa pour moi, parce que moi, j'ai vraiment donné le meilleur de mon niveau de flûte à bec en jouant ça. L'intention générale de l'émission a le mérite de ne pas se cacher derrière votre petit doigt en rejouant la partition que nous espérions pourtant éculée de l'instrument pauvre, ringard, vecteur de mauvais souvenirs, donc de mauvaise musique. J'avoue que la dernière fois que je me suis fait remettre en place comme ça au sujet d'une flûte à bec, c'était juste avant le lycée, vraiment, c'était en quatrième, parce que c'est vrai que j'en jouais avec mes narines. Alors, je suis confus et un petit peu surpris, parce que c'est vrai qu'on énerve sur France Inter souvent les soutiens de François Fillon ou de Pascal Pro, mais alors le lobby de la flûte à bec, j'avoue que c'était quand même assez inédit. Et pour leur donner raison et prouver que la flûte à bec, ça peut aussi être très très bien quand c'est joué par quelqu'un d'autre que nous, écoutez, on entend en ce moment même. Voilà, alors effectivement, alors on va se dire, ah ouais les gars, ils jouent super bien de la flûte à bec. C'est un des virtuoses français qui s'appelle Benoît Sauvé. Ah, vous le connaissez, un de nos invités qui le connaît. Alors, mais c'est pas commencé. Mais on va vous donner un point quand même.
Merci beaucoup.
Que je vous présente Vincent Perani, on y vient tout de suite, qui est un de mes invités. Donc Benoît Sauvé, qui est le champion français de la flûte à bec, qu'on félicite d'avoir eu la persévérance quand même d'aller au bout de cet instrument, parce qu'on est quand même nombreux.
Il a sauvé la flûte à bec.
Il a sauvé la flûte à bec. Bravo Benoît Sauvé. Je vous présente sans plus tarder les quatre invités qui vont jouer avec nous aujourd'hui. On vient de l'entendre à l'instant. Elle a sorti 3 albums depuis, mais il y a 10 ans sortait son premier album qui s'appelait Bossa Muffin, qui était un mélange de bossa et de
et muffin.
Elle a quitté Rio de Janeiro pour venir habiter à Paris et depuis 2006 elle est ici. C'est dire si elle a fait des choix de filles un peu étranges. C'est Flavia Coelho.
Bonjour.
Bonjour, on est en direct, on peut dire bonjour. Vous faites d'ailleurs en ce moment un podcast qui raconte, qui s'appelle De Rio à Paris.
C'est bien ça, qui raconte le premier jour où je suis partie de Rio pour venir en France, pour commencer l'aventure de mon premier album.
Ce ne sont que des regrets depuis. Vous serez le 18 novembre à Paris au Trianon.
C'est bien ça.
Je me tourne vers ma deuxième invitée. Elle est humoriste. Son spectacle Bon anniversaire Jean reprend à partir du 14 septembre à la Scala à Paris. Elle poste énormément de photos de chats sur Twitter et son podcast s'appelle Les gens qui doutent. C'est un excellent podcast. C'est pas non plus, je rassure, que des gens qui font
faut voir.
Ouais, non, c'est pas ça. C'est un vrai bon podcast. Je vous invite à l'écouter.
Tu dis ça juste parce que t'es invité.
Parce que j'étais invité et que j'ai pas bafouillé. C'est Fanny Ruette qui est avec nous.
Bonjour.
Merci Fanny d'être là. On vous entend aussi chez Nagui régulièrement.
Absolument.
Le matin sur France Inter. On l'a entendu aussi depuis le début, il a trouvé une réponse avant même que j'ai posé une question. Il joue de la clarinette et de l'accordéon. Son dernier album Abrasso est sorti au mois d'octobre. C'est Vincent Perani qui est avec nous.
Bonjour.
Merci Vincent d'être là.
Merci.
Vous venez de terminer votre tournée, semble-t-il.
Oui. Je suis en décompression là. C'est pour ça, ce petit quiz va me faire extrêmement du bien.
C'est super. Et vous avez une date en Italie le 25 août, au cas où il y a des gens qui nous écoutent.
C'est
là-bas.
Ça. Sinon, un peu plus loin, il y aura le 3 décembre à la scène musicale. Voilà.
À Paris. Et mon dernier invité, il est là, on le connaît. Alors, c'est le chanteur préféré des enfants, mais aussi le chanteur préféré des parents qui ont l'habitude de se débarrasser des enfants en disant bon, maintenant, papa et maman, ils en ont marre, tu vas aller écouter de la musique dans ta chambre. C'est Aldemer.
Salut Thomas.
Merci Aldemer d'être là. On vous doit tous tant. Tous les parents qu'on est qui vous écoutent, on vous doit tant. Aldemer.
Ah oh, merci, c'est gentil.
Vous êtes l'adulte préféré de tous les enfants, juste après le Père Noël, et vous avez le mérite.
À la pression.
D'exister. Vous existez. Le rappel des règles, donc des questions de musique, une flûte à bec à gagner, flûte à bec qui a été offerte cette semaine par Pierre Pipeau. Je rappelle que toutes les mauvaises réponses sont acceptées. Donc on est chacun équipé d'un buzzer. Vous êtes tous chacun un buzzer. Voilà. Voilà, c'est Fanny Ruette qui vient de faire retentir le chien, Flavia Coelho, Aldebert et Vincent Perani.
C'est joli, hein.
Les buzzers marchent très bien. N'attendons plus, jouons tout de suite à Qui veut gagner la flûte à bec.
France Inter, Thomas VDB. Qui veut gagner la flûte à bec? Sorrow's my body on the waves.
Sorrow's a girl inside my cave.
Alors, on écoute là tout de suite le morceau d'un groupe américain qui s'appelle The National. Et ce morceau s'appelle Sorrow, hein, pour chagrin en anglais. En mai 2013, ce groupe The National a réalisé une performance artistique au MoMA de New York. En quoi consistait cette performance?
Waouh.
Alors, Flavia Coelho.
Ils n'ont pas joué.
Ils n'ont pas joué, ce n'est pas une bonne réponse. Ça aurait été une performance artistique un peu légère.
C'est quand même un truc différent, c'est les vrai. Musiciens qui jouent pas. C'est pas une performance.
C'est pas qu'ils n'ont pas joué. Qu'est-ce que pouvait bien être Aldebert.
Ils ont peint une toile pendant le concert, ils pas ont fait tout, un truc artistique,
pas,
non
pas, ils ont fait un truc artistique, c'est une performance artistique. Mais c'est pas, ils n'ont rien peint.
Mais est-ce que ça avait un rapport avec les peintures ou
Pas du tout.
Okay.
Ça avait un rapport avec la musique. C'est un rapport avec la musique. Et ça avait un rapport même précisément, je vais vous donner un indice, avec ce morceau qu'on est en train d'écouter.
Avec Sorrow.
Avec Sorrow.
Est-ce que ça impliquait d'autres gens que les membres du groupe?
Il y avait un public, mais non, sinon ça, il n'y avait que le groupe exact.
Ça veut dire quoi, Sorrow, déjà?
Ça veut dire chagrin.
Ils l'ont fait que en pleurant.
Non.
Ils ont fait d'autres personnes pleurer grâce à leur musique.
Non, bah peut-être, parce que j'imagine qu'il y a des fans qui trouvent ce morceau émouvant, mais non, c'est pas l'idée.
C'était décalé ou c'était un truc plutôt sérieux?
C'était plutôt un truc sérieux, on va se dire. Voir chiant. J'ai envie de dire.
C'était long. Genre 5 heures.
Alors.
Longue.
Ah. C'est pas ça, mais je vais donner le point à Fanny Ruette parce que The National.
À moi la flûte.
On jouait ce même morceau Sorrow pendant 6 heures d'affilée.
Ok.
Soit 108 interprétations du morceau Sorrow. Et étrangement, il n'y a pas eu de rappel.
C'est ça la performance en fait.
Ils ont joué 108 fois leur morceau et c'est fou parce qu'en fait quand un groupe il joue son tube en concert, en général dès qu'il commence les premières notes, le public fait Et là tu dis comment ils ont réagi la 17e fois. Est-ce qu'après la 107e fois, je me demande si le groupe a dit bon, on va vous en jouer une dernière.
On les connaît.
Du public qui a fait Sorrow. Voilà, mais c'est un bon point qu'on donne à Fanny Ruette, un premier point, bravo. On enchaîne tout de suite avec la question numéro 2. Ça c'est vraiment pour les amateurs de douces mélodies, évidemment. On va le faire taire tout de suite, ce chanteur, parce que c'est quoi chanteur, déjà, je suis généreux. Est-ce que vous avez reconnu Aldebert?
Non, mais ça me fait penser à du Cradle of Filth.
Alors, c'est
voix.
Pas, non, c'est pas parce Cradle of Filth.
C'est un petit peu black metal.
Un petit peu rock. C'est une pub pour Strepsils qu'on écoute. Non. Alors, on écoute le musicien.
Moi, j'y étais.
On écoute le musicien américain Prince Midnight avec son morceau Demon Soul Caress qui vient de sortir, qui n'est pas entré sur la playlist France Inter. Il est vibraphoniste et guitariste. Prince Midnight joue sur une guitare électrique très particulière. Quelle est la particularité de cette guitare? Alors, quelle est la particularité de la guitare sur laquelle joue Flavia Coelho?
Elle n'a pas de manche.
Elle a un manche.
Mais elle n'a pas de corde.
Elle a des cordes, j'espère.
C'est esthétique.
En tout cas, elles sont désaccordées,
manifestement. C'est esthétique ou c'est quoi?
C'est un vrai instrument?
Ça correspond à une esthétique, lui avait l'air de trouver ça esthétique, mais bon.
Donc c'est sur la forme de la guitare?
Nécessairement, ça a dû donner des aspérités un peu particulières à la
guitare. Elle est pilotée par la voix du mec, non?
Non.
Il y a un enfant qui est coincé dans les cordes?
Non, mais on se rapproche.
Ah. Un animal?
Non.
Sa femme. La guitare ne fonctionne que si on...
On est tout prêt, oui.
Elle ne fonctionne que si on sacrifie quelqu'un avant.
Ah oui, c'est
de sa famille. De sa famille.
Vraiment, vous êtes
sa belle-mère.
À cheval, c'est pas la belle-mère. C'est pas la belle-mère.
Ah, les cordes, c'est genre en cheveux de sa femme.
Non.
Ça renvoie des secousses électriques quand il joue, non?
Non.
Sur quelqu'un.
Ça fait vibrer quelque chose pour sa femme quand il joue.
Non.
Il fait des crêpes pendant qu'il joue de la guitare.
Comment?
Il fait des crêpes pendant qu'il joue de la guitare.
Non, il fait pas des crêpes pendant qu'il joue de la guitare. Mais par contre, vous étiez pas loin, Flavia.
Avec sa femme.
Donc j'ai parlé de sa femme, avec les cheveux de sa femme. Les cordes sont les cheveux de sa femme.
Bon, je
c'est avec
vais
le corps femme de qui est sa dessiné femme. Sur
c'est
la
avec
guitare.
Le corps de quelqu'un, mais c'est pas sa femme.
C'est un humain qui fait
non,
la guitare.
C'est pas la maîtresse.
C'est le corps, en fait. Qui donne le son de la guitare.
J'ai pas compris ce que tu as dit.
Non. Il joue avec des doigts de la guitare. Oui, comme tous les guitares.
Non, mais la guitare, c'est un humain, c'est une personne, en fait. C'est le corps.
Alors, Je vais donc donner, alors c'est pas exactement ça, je vais donner la bonne réponse à Flavia Coelho qui quand même, j'ai vraiment envie qu'il y ait un F en première partie de première consonne de votre nom de famille. Flavia Coelho. Alors la particularité de cette guitare, c'est qu'elle a été fabriquée avec le squelette de son oncle. Ah bah oui, bah c'est ça, c'est je sais pas, Vincent Perani, est-ce qu'il y a un membre de votre famille que vous aimeriez choisir pour faire de l'accordéon avec
Moi j'aimerais bien en tout cas.
Bah voilà, il faut... Alors effectivement, alors faut savoir que ce gars-là, en fait, c'est son oncle qui lui avait appris à jouer, qui lui a fait découvrir le rock. Son oncle habitait en Grèce, et quand son oncle est décédé, il a dit « Bah attends, moi je vais te faire rapatrier le squelette de tonton, parce que tonton il a toujours eu la musique dans la peau. » Donc je vais aller chercher sous sa peau et je vais faire de la musique avec. Et donc il explique qu'il a dû souder une barre de métal à la colonne vertébrale, c'est horrible, hein, vraiment, pour attacher le manche au squelette. Et il a même mis une prise dans l'os de la hanche de son oncle Philippe. Alors il paraît que ça a causé des moments malaisants avec sa mère, comme le dit l'article de Québec Huffington Post, puisqu'il dit au début elle disait que c'était un sacrilège, que c'était le travail du diable. Mais vous savez comment sont les mamans. Alors il m'a dit, mais je lui ai demandé, oncle Philippe était le plus grand fan de métal au monde. Où préférait-il être, dans la terre ou en train de rocker? Parce qu'au Québec, on dit rocker, et la mère a répondu en train de rocker. Et c'est quand même une belle histoire. Voilà, et apparemment, il lui reste des os avec lequel il a fabriqué un mini xylophone qu'il a donné à sa fille. Chapeau à toi, Prince Philippe. Voilà, en tout cas, si vous voulez faire découvrir de la musique à vos nièces ou neveux, faites-leur passer des examens psychologiques avant. C'est toujours une bonne idée. C'est un point pour Flavia Coelho. On écoute tout de suite la question suivante. Alors, là, on écoute un extrait d'un opéra du compositeur français Daniel François Esprit Aubert. Il n'y a aucun lien de parenté, je crois, avec Jean-Louis Aubert. C'est son vrai prénom, le gars. Daniel François Esprit. Wow. Et j'étais là. Donc, ça date de 1830.
Belle cuvée.
C'est, je sais pas si c'était
cuvée, un beau nom pour un vin.
Je sais pas où ça se plaçait dans la liste des prénoms les plus donnés en 1830. Daniel François Esprit. Je sais pas si les potes l'appelaient.
200e dans le top 200.
DFE, c'est un prénom vraiment. Tu postillonnes beaucoup quand t'appelles ton pote. Et donc on écoute un extrait de cet opéra le 25 août 1830, deux ans après la création de cet opéra à Paris qui s'appelle La Muette de Portici. Il est joué au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Et sa représentation va être le déclencheur d'un événement historique. De quel événement s'agit-il ?
Tu peux répéter la date ?
En 1830.
Ok, c'est la création de la Belgique.
Bonne réponse de Fanny Ruette ! Magnifique !
Bah oui !
Je pensais vraiment qu'elle allait pas avoir le point, mais si, fait. Alors, en 1830, l'actuelle Belgique fait partie intégrante du royaume des Pays-Bas, mais les idées indépendantistes gagnent du terrain et la colère gronde à Bruxelles. Exaltée par la musique de l'opéra d'Aubert, et en particulier par la chanson Amour sacré de la patrie, les spectateurs reprennent en cœur, et bien ce morceau, Amour sacré de la patrie! Les spectateurs reprennent en cœur les paroles révolutionnaires de cette chanson devant le roi présent dans la salle, puis sortent devant l'opéra et haranguent la foule qui déclenche une émeute qui va gagner toute la ville et durer toute la nuit. C'est le début d'une révolution qui aboutit un mois plus tard à l'indépendance de la Belgique. Mais ça, vraiment, on se dit, c'est vrai que quand Macron, il appelle les Français à se rendre au théâtre, il devrait faire gaffe, un jour, ça pourrait se retourner contre lui, hein, c'est vrai. Flavia Coelho, Flavia Coelho, hein, je rappelle, bien sûr.
Flavia Coelho aussi.
Flavia Coelho aussi, ça serait pas, je vais garder ça. Imaginons au Brésil, il y a un mec à la tête de l'État qui fait n'importe quoi. Quel morceau pourrait vous donner envie de faire la révolution, peut-être, vous?
Bah déjà, avec ce messier qui est sur place, peut-être la marche funèbre.
Une marche funèbre.
Ouais, ouais, écoute, c'est plutôt ça, que... ouais, parce que.
Et toc. Voilà, je pense qu'on peut dire et toc. Merci Flavia, tout de suite, la question suivante.
Quand on reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
Bon,
Jean-Claude.
Jean-Claude Duss, avec la chanson probablement. La plus chantée en France sur des télésièges quand il s'arrête pendant 10 secondes, ouais. Hein, ça c'est sûr. Cette chanson est directement inspirée d'une autre chanson de montagne très célèbre. Ah. Laquelle ?
Donc ça c'est Étoile des Neiges ?
Étoile des Neiges !
Oh. Puis, merveilleux.
Mais vous avez le droit d'être plus content quand vous donnez une bonne réponse
oui,
à deux
non, mais c'est pourquoi
parce que
non, parce que je doutais en fait.
C'est Étoile des Neiges.
Non. Oui, c'est le même.
Ouais, c'est pas cool des questions des montagnes. Moi, je viens du Brésil, il n'y a pas de montagne chez moi avec de la neige, tout ça.
Heidi. On va faire du ski alpin pour connaître la réponse.
Jean-Claude.
Il y a des Suisses, des Belges.
Faut avoir vu les, vous avez vu les Bronzés, Flavia Coelho?
J'ai vu les Bronzés.
Ah ben voilà, c'est une chanson extraite des Bronzés. Donc Étoile des Neiges, c'est une chanson autrichienne adaptée 20 ans plus tard par Lynn Renault qu'on écoute.
Hélas, soupirer.
Voilà, merci Lynn.
Cette chanson.
Au revoir Lynn. Au revoir. Donc les droits de cette chanson étaient trop chers et il a été demandé à Pierre Bachelet, oui, qui a composé la musique des Bronzés font du ski. On lui a dit, est-ce que tu peux faire pareil, mais moins cher? Et donc c'est le compositeur de faire un morceau proche. Il a donc pris les mêmes rimes, le même nombre de pieds. Il a changé l'ordre des notes de la mélodie et il a créé la chanson qu'on entend dans le film de façon à pouvoir toucher de très très nombreux droits d'auteur.
C'est légal, ça passe.
C'est complètement légal.
Manifestement, c'est passé.
Ouais, ouais. C'est complètement légal.
Ouais,
c'est,
on inverse. On inverse.
Demandez à Goran Bregovic, il fait ça très bien.
Ah, c'est vrai.
Ça balance.
Ça balance. Mais il le fait. Il le fait avec les musiques de qui?
Allez.
Toutes les musiques, même et surtout les musiques traditionnelles aussi. Et il signe. Hop.
Ok.
Ce cadeau. Cadeau.
Ah, bah tiens, bonjour, ah, Laurent. Il vient d'ouvrir la porte. Comment ça va?
On a Goran Bregovic qui arrive.
Ouais,
avec sa massue.
Yes.
On enchaîne.
Cité de malheur.
Alors, nous écoutons le chanteur Yves Martin sur l'une de ses compositions, la chanson Cité de Malheur, parue en 1984. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant vous connaissez très probablement ce chanteur. Pourquoi?
Est-ce qu'il a fait des pubs?
Il n'a pas fait de pub.
Est-ce qu'il a fait des tubes?
Il a fait un tube dans les années
80. Il a fait des tubes.
Que tout le monde connaît.
Qu'est-ce qui vous conduisait, Fanny Aumet, à demander s'il avait fait des pubs?
Parce que personne connaît son nom, mais tout le monde l'a déjà entendu en général.
Alors, personne connaît son nom, mais tout le monde l'a déjà entendu.
Mais est-ce qu'il a écrit
il
pour d'autres?
Il a écrit pour les autres.
Il a écrit pour d'autres. Il a écrit pour d'autres.
Je sais pas. C'est le chanteur de la MAF.
De la MAF. Ouais, il a écrit pour Sheila notamment. Je vous donne un indice. Vous le connaissez peut-être sous son pseudo. Alors, lui, là, c'est Yves Martin, mais vous le connaissez peut-être sous son pseudo qui est Lionel Leroy.
Oula.
Et je me dis, quand,
c'est les assurances.
Quand tu t'appelles Yves Martin, est-ce que c'est bien la peine de choisir
pas...
comme pseudo Lionel Leroy?
C'est une drôle d'idée.
Parce que je m'appelle Daniel Dumont, je prends Jean-Claude Duchard.
C'est le chanteur de Carglass.
C'est pas le chanteur de Carglass.
Lionel Leroy.
Alors
Mais on le connaît pour de la musique.
Pour de la musique.
Considéré comme de la musique qui passe en radio, machin, ou...
Pas en radio, plutôt en télé.
Ah, donc c'est un générique d'une émission super connue des années 80.
Les amours.
Ah, moi j'étais pas née, je suis désolée.
C'est un jeu télé?
C'est pas un jeu télé.
Le journal.
Mais qui chante le générique du journal? Et maintenant les impôts, ce sont les impôts.
Dès les années 80, tout était possible.
C'est vrai. Je vais donner le point à Aldebert qui a quand même trouvé l'idée que c'était exactement la musique d'un générique. Il a été l'interprète de nombreux génériques pour la télé française au début des années 80. En voici un petit medley.
Wow.
Alors, entre autres, attendez, c'est que le début là.
Ouais, c'est la voix du gars. Quoi.
C'est lui aussi.
Ah, respect quand même.
Ah, c'est là, je l'adore.
Et il a fait du lourd quand même.
Ah, quand même.
Ouais.
Sur les dans les fauteuils de la SACEM, il est tout là-haut, lui.
Tous ces tubes.
L'amour du risque.
Trop bien.
Jonathan et Jennifer.
Voilà, donc ça fait quand même, on connaissait quand même bien sa voix, mais c'est vrai que le morceau là qu'on a écouté, c'est un de ses tubes, ça s'appelait Cité de Malheur. Et alors le mec il arrive même pas à s'empêcher de faire en sorte que ça ressemble au titre d'un dessin animé. Alors, je voulais faire les Cités d'Or, mais bon c'est un peu voilà. Il a fait Marc et Sonia. Non, il a pas fait tout ça. Mais bon voilà, donc beaucoup de génériques enregistrés par Lionel Leroy. Le point est attribué à Aldebert sur cette question. Je propose tout de suite qu'on écoute un morceau de la playlist France Inter. On écoute le titre Le sang de mon prochain par le groupe La Femme.
Je suis le sang de mon prochain, je sème la mort et la tempête, je suis la vengeance et la haine, et je vais là où le vent m'emmène, je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents,
Si la vie nous sépare, tu peux me voir dans le noir. Et peut-être que ce soir, je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. C'est que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec ? Thomas VDB.
Et qui de mes quatre invités, Flavia Coelho, Fanny Ruette, Vincent Perani ou Aldebert, va remporter la flûte à bec aujourd'hui ? On va le savoir dans quelques instants. Alors on écoute tout de suite l'un des plus gros hits du New-Yorkais Lenny Kravitz, le morceau Always on the Run, paru en 1991 sur son deuxième album Mama Said. Sur ce titre, le chanteur fait appel à un célèbre guitariste de hard rock. Quel est le nom de ce guitariste ?
Slash.
C'est Slash, bonne réponse. De Aldebert, de nouveau, vous le saviez évidemment.
Oui, ouais. Moi j'attendais par politesse que tu termines la question.
Bah ouais,
en pleine période Guns N' Roses à l'époque, et sur le clip, tout d'un coup il y a Slash qui arrive avec son chapeau, torse poil, c'est la grande classe.
Bah ouais, on se souvient de ce gros hit. Alors ce qui est marrant, c'est que moi, ça je ne le savais pas, c'est qu'en fait ce morceau a été composé par Slash pour les Guns N' Roses, mais que le batteur n'arrivait pas à le jouer.
Ah ouais?
Ouais. Et donc, il voulait jouer mal. Et donc, il a décidé de donner ce morceau à Lenny Kravitz. Et quand les Guns N' Roses ont joué à Paris en 1992, Lenny Kravitz a été invité à venir jouer sur scène avec eux.
Ouais, classe.
Et il paraît que le batteur des Guns N' Roses a fait: ah non, pas lui, avec son morceau relou, là. J'arrive pas à le jouer, voilà. Le point est donc donné à Aldebert. Bravo.
Cette version de la guerre des étoiles, je connaissais pas vraiment, celle-là.
C'est sublime.
Ah, mais c'est sublime.
Sublime. Alors, vous avez reconnu la musique de Star Wars chantée ici par René Joly, évidemment, en 1977.
C'est beau.
Là, on est vraiment dans le côté obscur de la variété française. Je comprends pas, moi, que George Lucas n'ait même pas choisi comme générique.
Installé en France, d'ailleurs, moi.
Les paroles de cette adaptation sont signées d'un célèbre parolier français à qui on doit d'immenses succès de la variété française. Je vous demande quel est le nom de ce parolier.
Julien Clerc.
Alors, c'est pas Julien Clerc.
Mais c'est un des paroliers de Julien Clerc.
C'est le parolier mythique Julien Clerc.
Oui.
Oh, bien. S'il nous écoute, il doit pas être flatté, là. Ah, mais oui, bien sûr, c'est l'autre.
Bien sûr, je connais que lui. On a dîné ensemble il y a deux semaines.
Connu, ce c'est vrai, bonne réponse, il est hyper connu. Bonne réponse,
on a juste à suggérer, tu sais.
Alors, non.
C'est pas Charles Dumont.
C'est pas Charles Dumont.
Donne la première lettre.
Alors, son prénom, je vous dis le prénom, parce que là, j'ai peur vraiment qu'on galère. Si je fais lettre par lettre, mais sinon.
Donne-toi d'abord une.
Alors, E. Mais vraiment, c'est vraiment.
Donne le prénom.
Étienne.
Ah merde.
Ah ouais, je pensais pas à lui. Je pensais pas du tout à lui.
Non, j'ai pas été avec Étienne la semaine dernière.
Là, il y a des millions d'auditeurs qui sont là. Enfin, ils sont nuls ou quoi?
Mais ouais.
Là, ça se vénère dans les voitures.
On va recevoir des mails de spécialistes de la chanson française. Alors, ben, c'est Étienne Rodagile.
Ah, mais ouais. Ah, bah oui. Bah,
ouais,
voilà.
Bah, facile de dire, bah ouais.
Ah, ça craint.
Je vais donner le point à Fanny Ruet qui a dit Julien Clerc, parce que c'était le parolier Julien Clerc. Et c'est vrai que là, le gars, quand même, il s'est pas emmerdé. Il s'est dit, on va prendre le sujet du film, on va prendre la mélodie de la musique du film et on va faire une chanson avec. Hein, c'est comme si le gars il faisait la version de Midnight Express. C'est l'histoire d'un mec qui se fait arrêter à la douane.
Ah, ben, du chili.
Mais en fait, cette émission, c'est vraiment tous les hacks de la SACEM. Comment gagner des droits sans rien foutre.
C'est beaucoup ça, effectivement.
C'est beaucoup de boulot s'afficher comme ça en chantant La Guerre des Étoiles. C'est énorme.
Ouais, c'est tous les grands truands, quand même, de la chanson.
J'avais un bêtisier.
Comment inverser des notes.
Il y a un bêtisier des maisons de disques qui traînait dans les studios un temps. Et il y avait un mec qui a fait une chanson sur, c'était hyper glauque, sur l'asthme.
Sur l'asthme, ouais. C'était l'unique chanson sur l'asthme.
Je passe ça parce que il y a des choses incroyables dedans.
Mickey 3D respire.
Ouais, c'est la deuxième.
Respire pas bien.
Respire mal. Alors donc oui, Étienne Rodagile, il a écrit pour Julien Clerc, La Californie, Ce n'est rien, Si on chantait, Utile, mais aussi pour Claude François, Alexandrie, Magnolia Forever, Joe le Taxi, voilà. Donc c'est sûr, à côté, on se dit La Guerre des Étoiles, c'était pas forcément son chef-d'œuvre. Voilà, c'est un moment de sa vie, bon, il était pas autant. On écoute la question suivante. Alors, on a reconnu la 5e symphonie en ut mineur opus 67. Ça, on sait que surtout c'est l'opus 67 de Beethoven.
Vous êtes sur France Culture.
Dites, j'ai envie de dire ça. Dites Symphonie du Destin. Cette œuvre avait été choisie comme indicatif de l'émission Les Français parlent au français diffusée depuis Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les représentants de la France libre avaient-ils choisi cette musique comme indicatif?
Elle était libre de droit.
Pour aller contre la musique de Wagner?
Non. Pourtant, quand on va se voir la réponse, on se dit qu'il y a un truc qui aurait pu être comme ça. Mais c'est pas exactement ça.
Il
n'y
a pas de lien avec les pommes?
Avec les pommes? Non. Les pommes, c'est ça.
Il n'y a pas de lien avec les pastèques, tant qu'à dire.
La Seconde Guerre mondiale, les pommes! Bah oui, bien sûr.
Bah oui, bien sûr.
Non.
Ouais.
Pas de lien avec les abricots?
Non plus.
Okay.
Non, il y a beaucoup de fruits avec lesquels ça n'a strictement aucun rapport. Ça, c'est un indice que je vous donne.
Ok.
Alors, je vous donne un indice, c'est un rapport avec le fait que c'est la 5e symphonie.
Ah.
Et
ah.
Donc, que ça se lit avec en chiffres romains.
Le V de victoire.
C'est le V de victoire, c'est la bonne réponse.
C'est vraiment chercher loin quand même.
C'est chercher loin. Ils avaient d'abord pensé à voulez-vous danser grand-mère. Et ensuite ils se sont dit ça va être trop. Ils auraient pu... Avec Vanina, ils auraient pu faire Vanina français. Voilà, c'est exactement ça. C'est le V de la victoire. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, et pas aussi parce que le général de Gaulle, il avait une copine qui s'appelait Véro. Et ça, c'était un clin d'œil qu'il voulait lui faire. Et évidemment, et donc c'est aussi parce que le popopopom, le V, en fait, il faut savoir que ça représente, oui, c'est en fait le V en morse, ça fait 1, 2, 3, 1.
Ah, pom, 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 pom.
Ouais, voilà, c'est
ça. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ils ont mis ça.
Tous recoupent, commissaire.
Tous recoupent. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'était pas aussi lié à Wagner, ou c'est le W, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des amateurs de morse parmi vous? Et si on n'a pas, je tiens à vous dire.
Bien cuit, ouais.
Les deux. Je prends les deux. Bien cuit.
Bien cuit, ouais, c'est pas mauvais.
Ok, très bien. Les recettes de Vincent Perani seront à retrouver sur le site de France Inter. Tout de suite, la question suivante. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. Head is mad and black. Got the bushes black to match. Riding on a horse. You can whip your Porsche. Alors, on écoute Lille Nas. X, avec son morceau Old Town Road. À 22 ans, cet Américain est un ovni dans l'industrie musicale. Il est autoproduit, il a battu en 2019 le record de Mariah Carey en plaçant son premier single 22 semaines en tête des ventes aux US. Le clip de ce morceau approche les 1,5 milliard de vues sur YouTube. Il est aussi un des très rares rappeurs américains à revendiquer son homosexualité. En mars 2021, Lil Nas X s'est vu intenter un procès par la firme Nike. Pour quelle raison? Ah ouais, vous êtes hyper calé en Nike, quoi, Lil Nas X. Alors, Fanny Ruet.
Attends, c'est quoi la fin de la question?
Le sang dans les chaussures.
Bravo.
Et en effet, ouais, ça a été mal pris par la marque.
Alors chacun un demi-point, effectivement. Lina Six a mis en vente 666 paires de Nike customisées qu'il a baptisées les Satin Shoes, décorées d'un pentagramme et d'un verset biblique sur Satan, lesquelles contenaient chacune une goutte de sang. Dans chacune de ses chaussures. Ses chaussures ont été lancées en même temps que le clip de la nouvelle chanson du chanteur dans lequel on vous le voit descendre en enfer et prendre la place du diable.
On parle dance.
Comment ?
On parle dance. Il fait du pole dance.
Ah oui, c'est ça, il fait du pole dance dans le clip. J'ai pas vu le clip.
Et c'était le sang
pas
du...
Pardon Flavia.
C'était son
le
sang
du Christ.
C'était le sang du Christ, effectivement. Ah. Apparemment, il avait récupéré une boutanche.
C'est chaud. Il a son spectacle, ce monsieur.
Alors, les paires ont été vendues plus de $1,000 l'unité. Elles sont parties en une minute sur Internet. Et Nike, qui affirme que ces chaussures portent atteinte à leur image, a obtenu la suspension des livraisons de chaussures. Alors une pensée ce matin pour ces satanistes, fans de Nike, qui ont déboursé $1,000 et qui n'ont jamais reçu leur tennis et qui maudissent le livreur en le jetant probablement des sorts. Il y en a parmi vous qui font peut-être des messes noires.
Bien sûr.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Aldebert, fan de métal, fan de messes noires.
Bah,
de...
Ouais, on sacrifie comme ci, comme ça, quoi.
Mais... Un culte à Lucifer.
Je fais des chansons pour les enfants, évidemment. C'est juste pour en choper comme ça au concert pour les sacrifier.
Bah, ouais, ouais, mais j'avais eu un courrier comme ça d'un catholique extrémiste suite à un concert parce que je faisais ce signe du diable
avec
James Dio. Et il m'avait écrit deux pages comme quoi je soutenais les sacrifices d'enfants.
Mais ces gens ont trop de temps libre.
Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, ils ont un peu de temps. Mais c'est marrant cette histoire de rappeur, parce qu'on aurait plus vu ça chez des gens comme Ozzy Osbourne à l'époque.
Bien sûr.
Avec tout le côté théâtral, toute la théâtralité du métal et tout ça. Et maintenant, ça continue en fait, mais avec le hip-hop et Nike, c'est marrant.
Dans cette même émission, il n'y a pas très longtemps, on a posé une question sur le groupe Kiss qui avait sorti une bande dessinée dans les années 70 et qui contenait l'encre rouge contenait du sang des membres de Kiss et qui donc avait été versé dans les cuves de sang rouge. Et donc, ça a fait de cette BD un collector. Voilà. Qu'est-ce donc le point? Et je sais plus pour qui il est. Il est pour Fanny Ruette, évidemment. Un demi-point chacun.
Ouais, un demi quand même.
C'est très très serré aujourd'hui dans Qui veut gagner la flûte avec. Ah. Vincent Perani, c'est exactement déjà.
J'ai vu la réponse dans ses yeux là.
Si on écoute, la réponse a déjà été donnée. Je vais tout vous dire.
On n'a pas besoin de répondre, on peut passer à la prochaine question.
Quelle est la question?
Alors la question est: quelle était la particularité de la basse utilisée par Jaco Pastorius qu'on écoute en ce moment?
Elle n'a pas de fret.
Elle n'a pas de fret.
Une basse fretless.
Exactement. C'est le mot a été dit déjà par Aldebert. Donc je précise que c'est un artiste majeur des années 70.
Jaco Pastorius.
Ah, bah oui. Exactement. Il n'y a aucun organe. D'aucun des membres de sa famille dans sa basse. Ça, c'est quand même un truc assez étonnant. Alors, moi, je sais pas, mais c'est peut-être l'âge que j'ai, mais dès que j'entends une basse fretless, je pense au Grand Bleu.
Mais oui, c'est normal. C'est très Eric Serra.
C'est ça, c'est normal.
Qui écrivait beaucoup avec ce son.
Et avec Jean-Marc Barre qui nage et qui nage et qui n'en finit plus de nager. Avec
un petit dauphin.
Comme le souligne Vincent Perani. Ben là, je pense que le point est partagé.
Non, mais je te le donne.
Écoute, je remercie ton geste.
L'imitation du dauphin. Vaut bien le point.
Mais vaut bien le point.
Exactement.
Quelle performance.
Franchement, la fretlette basse plus les sons de
plus
dauphin,
ça,
là,
on est
sur le Grand Bleu. Vraiment, il y a Rosanna Arquette qui arrive.
Allez, concours d'apnée.
Très bien. Alors, il disait que c'était lui qui avait inventé la fretless basse, mais en fait, il y a plein d'autres gens qui ont fait de la fretless avant, genre Bill Wyman des Rolling Stones. Mais alors, est-ce que ça.
Mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé, parce que c'est vraiment son son à lui, à Jaco Pastorius, et c'est ce qui fait qu'il y a plein de bassistes d'un coup qui se sont mis à faire de la fretless aussi. Ouais.
Donc, la fretless, on précise bien, c'est une basse sans.
Il y a des petites barres sur le manche, en fait, des barres en métal qui permettent de se repérer et qui changent le son du coup. Et là, en fait, ces barres ont été enlevées et ça donne ce son un peu moelleux. Voilà, c'était pour la petite minute didactique.
La minute Jaco, quoi.
Voilà.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une basse sans cordes?
Ça serait bien des fois.
Ce serait bien, des fois,
franchement.
Surtout avec ceux qui ne savent pas jouer.
Je joue de la basse sans basse.
Ça. Ouais,
très bien. Mais je propose qu'on écoute tout de suite un autre morceau de la playlist de France Inter avec de la basse, je crois, au début, mais pas en fretless basse. C'est Dry Cleaning avec Scratch Card Leonard. Alors, je ne sais pas quel est le titre et quel est le nom du groupe. Regardez sur internet, c'est tapez tout ça, vous allez trouver. Dry Cleaning, Scratch Card Leonard, c'est parti.
Falling and exploding, you can't save the world on your own. Demons can't open the door, Kung Fu cancel. It'll be okay, I just need to be weird and hide for a bit and eat an old sandwich from my bag. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle, I've come to learn how to dance. I've come to join your knitting circle. I've come to hand weave my own bunk bed ladder in a few short sessions. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything, feel nothing. Do everything, feel nothing. Very much for the Twix. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small, delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you. Chips now. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball. Filter, I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing, wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing.
Inter. Qui veut gagner la flûte à bec? Thomas VDB.
Et toujours avec mes quatre invités, Flavia Coelho, Fanny Ruette, Vincent Perani et Aldebert, qui sort son nouvel album Enfantillage à la fin du mois d'août, c'est ça?
Le 27 août.
Le 27 ouais. août, et sur lequel il y a le chanteur de Midnight Oil qui est invité.
Hashtag t'as vu.
Et Époustouflant, hashtag t'as vu, exactement. On va partir dans un domaine musical que je crois vous connaissez bien, puisque vous portez un t-shirt Spinal Tap aujourd'hui. On écoute le morceau de la question suivante.
Ah, ça me plaît déjà, ça.
On trouvait que ça manquait de chanteurs qui partent vraiment dans les aigus dans dans cette émission.
Grande tessiture.
Donc, qu'on écoute le très énervé morceau Sortilège, sorti en 1983 par le groupe du même nom. Sortilège, j'adore dire le mot. Sortilège. Ouais.
Sorti vite.
Sortilège.
C'est groupe français ?
Sortilège, c'est un groupe français qui fait partie de ces groupes qui ont porté haut et fort les couleurs du hard rock français dans les années 80 aux côtés de Trust ou Vulcain.
Ouais.
Sortilège, étonnamment, partage un point commun avec le groupe Earth, Wind & Fire, qu'on écoute là.
La tessiture.
Les costumes.
La tessiture. Outre la tessiture et les costumes, quel est le point commun entre le groupe Sortilège, qu'on vient d'écouter,
c'est pas un musicien.
Earth, Wind & Fire, c'est pas un musicien, non.
Une chanson.
Ça n'est pas une chanson.
Est-ce que ça a un rapport avec les textes?
Non, ça n'a pas un rapport
avec la SACEM. Ils ont le même manager.
Indirectement, ça va avoir une incidence sur la SACEM, mais ça n'a pas un rapport direct avec ça. Ça a une incidence.
Est-ce que c'est une adaptation de base? Est-ce que leur titre principal est une adaptation?
Le même morceau. Ils ont chanté la même chanson?
Non.
Ils font la même reprise?
Non. Ils ont mis le même nom dans le même morceau?
Non.
Ah, ils ont un titre, le même titre, mais c'est un homonyme en fait. Enfin, je veux dire, c'est le même titre, mais c'est deux chansons différentes.
Non. C'est le même titre, deux chansons différentes, le même morceau.
Non.
Ils adorent les noms de moi.
Non, je dis non. J'écoute même plus vos suggestions. Non, parce que c'était non.
Pardon. Non.
Alors, quel est le point commun entre le groupe Sortilège?
Un indice.
Alors, je vais dire qu'il y a plus ou moins un point commun avec les Gypsy Kings aussi.
Hein? Il y a deux frères dedans, à l'intérieur.
Non,
ils sont trop nombreux.
Il y a trois frères.
C'est une conséquence du fait qu'ils sont trop nombreux.
Il y a beaucoup trop de gens qui touchent leurs droits d'auteur parce que ça a été composé à 12 741.
Non.
Ah. Alors, ils n'ont pas pu faire la première partie d'Earth, Wind & Fire, c'est pas possible.
Non.
Ils ont le même manager.
Non.
Ah, il y a plusieurs versions de groupe.
C'est la bonne réponse.
Oui, bien vu.
Il y a deux groupes, Earth, Wind & Fire, parce qu'ils se partagent les droits du nom.
King.
Et c'est la même chose pour Sortilège.
Incroyable.
Et c'est la même. Alors c'est pour ça que je disais qu'indirectement c'est la même chose pour les Gypsy Kings, parce qu'il y a Chico et deux Gypsies et les Gypsy Kings.
Et les Kings et les Gypsies.
Exactement. Alors Sortilège s'est reformé en 2019, mais une nouvelle scission entre les membres a abouti à l'existence parallèle de deux groupes Sortilège. Il en fallait bien deux quand même.
Je suis content qu'on écoute Sortilège sur France Inter.
Et je me dis, mais c'est dommage qu'ils tournent pas ensemble. Ces gars-là, il y a un groupe Sortilège qui fait la première partie de l'autre groupe Sortilège, parce que ce serait la meilleure façon de rassembler tous les fans de Sortilège. Je pense qu'il n'y en a quand même pas des masses.
Sortilège.
C'est donc un point donné à Vincent Perani, bravo. Question suivante.
C'est pas Sortilège,
c'est Jules.
C'est pas Sortilège, bonne réponse de Fanny Rouette.
À moi la flûte.
C'est Jules, qu'on écoute, une des plus grosses stars du rap français. Le Marseillais Jul avec son titre Chiquita. Jul détient de nombreux records, plus gros vendeur d'albums de toute l'histoire du rap français. Et tout récemment, le site britannique YouSwitch a réalisé un classement international et Jul est apparu numéro 1. Quel est ce nouveau record?
Nombre de titres composés.
Non, dont Jul est désormais titulaire. Ce n'est pas le nombre de titres composés.
Nombre de disques sortis depuis.
Non.
Nombre de followers sur Instagram.
Non.
Est-ce que c'est un rapport avec la musique ou avec un truc autour?
Nombre de mots Chiquita dit dans le même morceau.
Alors c'est un rapport avec le texte, avec le nombre de mots qui peuvent être dits dans un texte.
Ah,
c'est pas Chiquita. On est un peu loin. C'est pas le nombre d'insultes, mais c'est pas. Voilà, c'est le nombre de quelque chose qui revient beaucoup.
Un truc d'argot.
Une expression. Un mot qui revient tout le temps dans le. C'est lui qui l'utilise le plus.
Une expression anglaise, un truc.
Non. Quel est ce mot qui est revenu, cette variété de mots,
avec,
on va dire?
Il dit beaucoup trop d'avec dans tous les mots qu'il écrit.
Avec.
Des mots semi-espagnols.
C'est en conséquence de quoi? Le mot qu'il dit le plus souvent, c'est en conséquence de quoi? Non.
C'est abscons.
Non, c'est pas ta vue.
Il a mis un néanmoins dans une de ses phrases.
Non. Il y a un mot qui revient, c'est lui qui a dit le plus souvent.
J'utilise le vocodeur. C'est
non,
pas ça.
Non. C'est le plus grand nombre de citations de quelque chose dans une chanson, dans des chansons.
Est-ce que c'est Marseille?
Brr. C'est pas brr. Si ça comptait, je pense qu'il gagnerait si c'était brr. Non. Alors pour tout vous dire, je crois que je vais vous dire, mais bon, je sais plus qui a eu la réponse qui se rapprochait le plus de la bonne réponse. Je crois que c'est Flavia. Jul est numéro 1 mondial avec 113 citations de marques de voitures dans ses chansons.
On n'aurait jamais trouvé.
Quel homme d'affaires.
Et c'est vrai que c'est dur de savoir, mais il compose ses chansons.
Produit,
il compose toutes ses chansons au Salon de l'Auto. Ouais. Et si vous le voyez, bah, laissez-le, il est en train de bosser là-bas. Et donc voilà,
en gros, il cite DS, marqué des vieilles voitures
le
en fait.
Le top des marques les plus citées sont en 1 Mercedes, en 2 Lamborghini, en 3 Bentley. C'est vrai qu'on voit rarement dans les clips de rap des Seat Marbella.
Bah ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la Punto en fait?
La Punto a complètement
fait été des chansons avec la Punto.
Occulté des chansons de Jul. Voilà, donc c'est un peu le Dominique Chapat du rap français, Jul. On l'en félicite. Question suivante. Alors, on écoute Avant toi par le duo Les Cherche Midi en 1998. On a un peu oublié ce groupe, mais vous connaissez forcément le nom des deux garçons qui formaient ce duo. Comment s'appelle-t-il? Flavia Coelho.
Cherche et Midi.
C'est pas du tout ça.
D'accord.
Alors, les noms de famille,
C'est deux frères.
Non.
C'est les Gallagher.
C'est quoi? C'est pas les Gallagher. C'est le premier nom d'Oasis, non, non, mais... Cherche Midi. C'était leur tube, là, vraiment. Ils ont complètement changé de style après. C'est vrai que. C'est des noms très connus.
Jean et Michel.
C'est juste Jean.
David et François.
Je vous donne les.
David et Jonathan.
Non. Les prénoms, c'est Pierre et Julien.
Claire.
Non, c'est pas la réponse à chaque fois. Oh, je vais pas donner le point à chaque fois que vous dites Julien Claire. C'est pas une ruette.
Il y a un placement de produit, là.
Alors. Il s'agit tout simplement, je vous donne la réponse, de Pierre Souchon et Julien Voulzy, qui sont les enfants. Les enfants. Ouais.
C'est comme les Kids United, en fait, il y a une génération à chaque fois.
C'est
qui évolue.
Un petit peu comme ça. Ils ont sorti deux albums en 94 et 98, collaborés avec leur papa et aussi avec Mathieu Chédid. Alors, on ne sait pas s'ils ont collaboré avec le papa de Mathieu Chédid aussi, mais voilà, le monde de la musique, c'est une grande famille. Donc, c'est quand même possible. Voilà, donc la bonne réponse est pour moi, mais elle était écrite sur mon papier, donc c'était quand même plus facile. On écoute tout de suite la question suivante.
C'est le gris, pas cette beau gris, pas cette beau gris, pas cette beau qui grille tous les pains, il grille tous les pains. Il grille même la baguette, même la baguette, même la baguette, c'est gris tous les pains comme vous les aimez bien.
Nous gris sommes en mythe.
Il grille. Tous les pains.
Tous les pains.
Même la baguette.
Même la baguette. Faites les terres,
encore.
Bordel. Nous sommes en 1984 et le fabricant d'électroménager Seb annonce au monde une véritable innovation de rupture, le grille-pain qui grille tous les pains, y compris la baguette. Donc une prouesse technologique époustouflante. Pour annoncer comme il se doit cette grande nouvelle, l'agence de pub utilise un air d'opéra très célèbre. Quel est le nom du compositeur de la musique de ce spot publicitaire? J'ai pas dit de rechanter la chanson pour avoir le point, Aldebert.
J'aimerais bien écouter un peu, c'est possible.
Alors,
ou pas
on peut la remettre. Alors,
je tous vous donne les Chopin, même la baguette. Non.
Alors, on va écouter la version originale, si vous voulez bien.
Je suis les poules de la reine, la poule de la reine, la poule de la reine, le roi Ménélas.
C'est vrai que tu dis sur Seb, qui plus tard a quand même fait Seb, c'est bien. Ils sont passés d'un grand nombre de syllabes à un tout petit nombre de syllabes dans leur publicité. Quand même. Alors,
c'est pas l'auteur de Carmen, non?
Non.
J'allais dire ça aussi.
Non, non. Le dernier. Alors, je vous donne un indice. La dernière syllabe de son nom de famille, c'est le nom de famille d'un autre compositeur très connu.
Ah, bravo.
Ah, super.
Super. Là, c'est ça. Je sais la réponse, mais je vais pas vous le dire.
Ok, un prénom. Offenbach.
Ah, Offenbach. Bonne réponse de Vincent Perani avec une passe décisive de Fanny Ruette. Jacques Offenbach, ce qui tombe assez bien, des années plus tard, on s'est rendu compte que Offenbach était un fan de tartines grillées. Et ça étonnait beaucoup de gens, on a vu ça. Donc voilà, on a écouté un extrait de Offenbach, l'origine. Voilà, donc c'est. Voilà, donc je crois que j'ai fini cette question. On peut écouter peut-être tout de suite.
Merci,
passer à la question suivante.
Elle est pour qui, la flûte à bec?
Donc, là, nous écoutons le morceau 5 AM, extrait du quatrième album solo du guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. Sur cet album sorti en 2015, figure un titre qu'il a coécrit avec un musicien français, Michael Blumendil, le fameux Michael Blumendil. Pourquoi connaît-on ce musicien en France?
C'est le guitariste de Johnny?
Non.
Est-ce qu'il était dans un groupe ou est-ce qu'il a accompagné?
Il n'était pas dans un groupe, à ma connaissance, ou peut-être dans un groupe le week-end chez lui avec ses neveux, mais non.
C'est le guitariste de Julien Clerc?
Pas de Julien Clerc non plus.
Il a composé une musique de film connue ou une pub?
Il a composé quelque chose de très connu.
C'était pas une pub?
C'était
un jingle.
Un jingle plus qu'une pub.
Ah, c'est pas le mec qui a. Parce que je sais que Floyd avait repris le truc de la SNCF, tu sais. Tam,
tam, tam, tam. C'est la bonne réponse de Aldebert, effectivement. C'est lui qui a composé. Ce son énervant.
Ah, c'est okay. L'enfer.
Ah, je l'adore.
Et oui, alors donc, mais comme David Gilmour qui un jour était dans la gare d'Aix-en-Provence et il prenait son train, il a entendu. Et il s'est dit, attends, mais c'est fou, je vais faire ce morceau-là.
C'est un tube, ça.
Non, mais écoute ça.
Au secours.
Non, mais c'est. Non mais. Ça juste.
Voie 9. Train. Les 22h15.
Départ pour Arcachon à 18h23. Mais alors vraiment, mais.
Pour encaisser les retards un peu plus facilement, tu vois.
Quand j'entends ça, c'est comme si on me disait. C'est comme si on me disait Paul McCartney, par exemple, il était à I was in front of TV and I've seen, you know, va donc chez Speedy. And it was awesome. It was amazing. Voilà, c'est un peu la même chose que s'il avait utilisé une musique de Cassoulet pour faire un morceau. Voilà, donc bonne réponse d'Aldebert. Vraiment qui, de toute façon, n'est pas parti pour gagner, je crois, parce qu'il y a eu des bonnes réponses, mais pas assez pour
non,
remporter
mais
la France.
Il prend suffisamment le train pour avoir tous les choses.
On écoute la question suivante. On écoute New York Soul par l'orchestre du percussionniste Ray Barreto. Ce morceau est représentatif d'un style musical qui a vu le jour dans le Spanish Harlem de New York au milieu des années 60, mélangeant la soul afro-américaine aux rythmiques venues de Cuba et Puerto Rico. Quel est le nom de ce style musical aussi bien chanté en anglais qu'en espagnol ?
Latin jazz ?
Non, ce n'est pas le Latin jazz.
Est-ce alors, que c'est un nom rigolo, si tu poses la question ?
C'est un nom rigolo. C'est un nom rigolo. Et d'ailleurs, je vous donne un indice, le mot n'est pas très loin du son du mot rigolo.
Le reggaelo.
Le bougalou.
Le bougalou, ah, bonne réponse de Flavia Coelho. Exactement, bougalou. Le bougalou.
J'ai gagné mes places pour aller voir le concert d'Aldebert.
Vous gagnez un bout de flûte. On vous donnera un bout de flûte, droit de souffler dans la flûte. Le bougalou, qui n'a pas à confondre avec le bungalow. Hein, ça, c'est vraiment une habitation avec des araignées dedans. Non, le bougalou, on écoute un morceau de bougalou.
Ouais, avec le mot bougalou dedans.
Alors, dans les grands noms du bougalou, il y en a plein. Il y a Joe Cuba. Ça, c'est Sylvain Moser qui rédige les questions qui me l'a marqué parce que je ne connaissais pas. Il y a Mongo Santa Maria. Ouais, moi, je ne suis pas un connaisseur
évidemment,
de bougalou.
Sûr, évidemment.
Mais aussi Willy Colomb, Ray Barreto, ouais. Et voilà. Carlos qui a fait le bougalou du loup-garou. Mais je ne sais pas, c'était vraiment du petit succès dans le milieu de la finance américaine avec le bougalou de Wall Street. On écoute tout de suite la question suivante. Vraiment, c'est les frissons de la chasse. Hein. Frissons.
Ce côté chasse à cour, sympathique.
Alors, c'est pas de la chasse à cour en réalité. Non, on écoute un duo de. Ça, c'est un duo, je sais pas. Un duo de cors des Alpes, également appelé Alphorn. Cet instrument du folklore suisse se présente sous la forme d'une longue trompe droite creusée dans du bois. C'est un genre de didgeridoo suisse.
Genre de bang géant.
Voilà, genre entre le bang et le didgeridoo. Et il permet de jouer 16 notes sur 4 octaves en utilisant des harmoniques naturelles. On fabrique maintenant des cors des Alpes en plusieurs morceaux qui peuvent être démontés pour le transport. Mais en principe, l'instrument se fabrique d'une seule pièce.
Avec une vessie, genre.
Avec une vessie ?
Ouais.
Ah bah je sais pas ça.
Pourquoi ? Je sais pas, moi c'est comme ça que j'imagine.
Ah bah ouais, mais peut-être.
Mais... Ah mais c'était vraiment pas une info. Hein.
Alors c'était... Pouvez-vous me dire quel est le record du plus long corps des Alpes fabriqué d'une seule pièce ? Je sens que c'est une question
c'est à trois
où
chiffres.
Je vais beaucoup dire plus.
C'est à trois
moins,
chiffres.
1m20. Moins,
non, plus.
30 mètres.
Trois chiffres.
Moins.
20 mètres.
C'est pas le nombre de chiffres, c'est la taille.
3 mètres 40.
123.
Plus. Moins.
9 mètres 2.
Plus. 112.
Moins.
12 mètres 3
93.
15 mètres.
Ça va être long. Ça, alors, les auditeurs, hein, faut vous dire ça, c'est
alors, 20 mètres.
C'est plus.
20 mètres, plus.
21,
c'est plus.
22,
23,
21, 3, 21, 5, 20, 50.
C'est plus.
20,7.
C'est plus.
20,6.
20,6.
C'était si long.
Oh là là, la suée sur cette question.
Était grande.
Vraiment, c'est l'impression. Bonne réponse de Fanny Ruette, c'est 20,6. Sachant que le plus grand corps de chasse en plusieurs morceaux fait 47 mètres. Ça fait quand même un très très gros étui. Et le modèle, paraît-il, n'est pas jouable. Et j'imagine bien, parce que tu souffles dedans, t'es trop loin pour savoir si tu joues bien. T'entends rien de ce qui se passe. Mais je me dis, quelle humiliation faut-il avoir subi dans la vie pour te dire « Ah ouais, c'est ça !» Bah moi, je vais faire un corps en chasse de 47 mètres, mon pote. Et après, il va bien fermer sa gueule.
C'est un toboggan, en fait.
Faut vraiment avoir une revanche à prendre un peu
bizarre. C'est un toboggan.
C'est un toboggan dans lequel un centre de tuyaux. C'est déjà la fin.
Non.
C'est la fin. Mais oui, on arrive à la fin. Que voulez-vous que je vous dise? Vous voyez, d'autres questions qui étaient très intéressantes. Mais on se salue sur un générique de fin qui est joué par Vincent Perani et Laurent Corsia au violon. Je remercie tous mes invités d'être. Mais j'ai pas dit qui a gagné.
Ben
c'est normal, j'ai pas compté les points.
Ah.
Alors, je propose de faire une sorte de plouf. Est-ce que quelqu'un derrière en régie là peut-être s'est dit ah bah c'est clairement lui ou elle qui a gagné parce que je trouve que c'est un petit peu.
C'est une des deux filles.
Tout le monde a été brillant. C'est une des deux filles.
Ah, je pense.
C'est Fanny, je crois.
J'aurais dit que c'était peut-être Fanny aussi.
Ouais.
Vas-y, aussi, Fanny.
C'est Fanny Roulette qui remporte la flûte avec cette semaine.
Oh là là.
C'est magnifique victoire de Fanny Ruette. Vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez gagner une flûte à bec en jouant à notre grand concours d'été. Voilà, écoutez, comme c'est beau.
T'es doué.
Je sens que ça va se régaler dans le public.
Faire un petit buzz, Fanny Ruette. Impossible.
Très bientôt. Vous pouvez gagner aussi la flûte à bec avec le hashtag flûte à bec. À la technique aujourd'hui, il y avait Anne-Laure Cochet. Et comme chaque semaine, j'ai travaillé cette émission avec mon camarade Jean Moundir. Les questions ont été préparées par Sylvain Moser. Jean Rovarino a réalisé cette émission. Mathias Volant est notre attaché de production. Djoubaka a choisi les titres de la playlist France Inter. C'est fini. Je vous dis donc à samedi prochain pour le dernier épisode de Qui veut gagner la flûte à bec.